Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chers auditeurs, nous lisons en ce moment un roman écrit par Peter Mayle, un auteur anglais venu s'installer en Provence. Ce couple chaleureux et sympathique n'a pas tardé à se faire des amis dans la région où ils se sont installés. Quelque part, près de petits villages à proximité de Ménerbe et Beaunieu. Deux villages médiévaux en pleine nature provençale. Ils étaient venus chercher le soleil du midi, mais l'hiver, particulièrement froid cette année-là et neigeux, l'année de leur installation, les a bien perturbés. Écoutons-le nous le raconter. Les chiens s'adaptaient à la neige, comme des oursons, plongeant dans les congères pour en émerger avec des moustaches blanches et sautant à travers champs, par grands bonds dans la neige poudreuse. Ils apprenaient aussi à patiner. La piscine que, quelques jours auparavant, j'avais espéré nettoyer pour de précoces bains printaniers, était un bloc d'une glace vert-bleu qui les fascinait. Ils posaient dessus les deux pattes de devant, puis une troisième hésitante, et pour finir, la patte restante rejoignait le reste du chien. Ils passaient quelques instants à méditer sur l'étrangeté d'une existence où on peut boire quelque chose un jour et marcher dessus le lendemain. La queue commençait à s'agiter et on observait une certaine forme de progression. J'avais toujours cru que les chiens étaient conçus sur le principe des véhicules à quatre roues motrices et qu'ils disposaient d'un moyen de propulsion équitablement réparti dans chaque patte. Mais la puissance semble se concentrer dans l'arrière-train. Ainsi, la moitié avant du chien, qui patine, a peut-être l'intention de procéder en ligne droite, mais la moitié arrière échappe à tout contrôle, faisant des queues de poisson d'un côté à l'autre et menaçant parfois de passer devant. Dans la journée, l'impression nouvelle d'être isolée au milieu de cet océan de neige était un grand plaisir. Nous parcourions des kilomètres, nous coupions du bois, nous engloutissions des déjeuners gargantuesques et nous restions au chaud. Mais le soir, même avec du feu, des chandails et une nourriture plus abondante, le froid montait des salles d'allée et suintait des murs de pierre, engourdissant les pieds et crispant les muscles. Souvent, nous étions au lit à 9 heures, et fréquemment au petit matin, notre haleine formait un petit nuage au-dessus de la table du petit-déjeuner. Si la théorie de Colombani était exacte, et si nous habitions un monde plat, tous les hivers à venir allaient être comme celui-ci. Le moment était venu de ne plus faire semblant de vivre sous un climat subtropical et de céder aux tentations du chauffage central. J'appelais M. Colombani, qui s'enquit avec anxiété de l'état de mes canalisations. Je lui dis qu'elle tenait bien. « Tant mieux, dit-il, car il fait -5. Les routes sont dangereuses et j'ai 58 ans. Je reste chez moi. » Il marqua un temps, puis ajouta « Je vais jouer de la clarinette. » Ce qu'il faisait chaque jour pour conserver à ses doigts leur agilité et oublier les problèmes de plomberie. J'eus quelque mal à détourner la conversation de son opinion sur les compositeurs baroques pour la ramener à la triste banalité de notre maison glacée. Nous convînmes, pour finir, que j'irai lui rendre visite dès que les routes seraient dégagées. Il avait chez lui, m'expliqua-t-il, toutes sortes d'appareils, à gaz, à huile, à l'électricité, sans parler de sa plus récente acquisition, un panneau de chauffage solaire rotatif. Il me montrerait tout cela et je pourrais faire aussi la connaissance de son épouse, un soprano accompli. J'allais manifestement avoir droit à un récital au milieu des radiateurs et des robinets. La perspective d'avoir chaud nous fit penser à l'été. Nous commençâmes à tirer des plans pour transformer l'arrière-cour en salle de séjour à ciel ouvert. Il y avait déjà à l'extrémité un barbecue et un bar, mais ce qui manquait, c'était une grande table massive qui resterait là en permanence. Plantée dans 15 cm de neige, nous nous efforcions d'imaginer un déjeuner en plein mois d'août. Nous traçâmes sur les dalles un carré d'1,50 m de côté où pourraient s'installer des créatures bronzées et pieds nus avec toute la place qu'il fallait au milieu pour des saladiers énormes, des pâtés, du fromage, des poivrons grillés, du pain aux olives et des bouteilles de vin bien frais. Le mistral soufflait en rafale dans la cour et effaçait nos dessins sur la neige. Mais désormais, notre décision était prise. La table serait carrée et le plateau une seule dalle de pierre. La plupart des gens qui ont visité le Luberon ont été impressionnés par la diversité des pierres de la région. Ce peut être de la pierre froide, extraite de la carrière de Tavel, lisse et d'un beige pâle au grain fin. Ce peut être la pierre chaude de Lacoste, plus grenue, d'un blanc cassé plus doux, ou ce peut être une des 20 teintes et textures intermédiaires. Il existe une pierre pour les cheminées, pour les piscines, pour les escaliers, pour les murs et pour les sols, pour les bancs et pour les éviers. Elle peut être rugueuse ou polie, avoir des bords tranchants ou arrondis, être découpée en carrés ou en courbes voluptueuses. On utilise là, ou en Angleterre ou en Amérique, et l'entrepreneur emploiera le bois, le fer ou le plastique. Son seul désavantage, comme nous le constations, c'est qu'elle est froide en hiver. Ce qui nous surprit véritablement, ce fut son prix. À dimensions égales, la pierre coûtait moins cher que le linoléum. Nous fûmes si ravis de cette fallacieuse découverte, car nous avions fort commodément omis de compter la pose des pierres, que nous décidâmes d'affronter les éléments et sans attendre le printemps d'aller jusqu'à la carrière. Des amis nous avaient conseillé un homme du nom de Yves à Lacoste et qui travaillait bien pour des prix corrects. On nous le décrivit comme un original, un personnage. Rendez-vous fut pris avec lui pour 8h30 du matin, lorsque le calme régnerait encore dans la carrière. Nous suivîmes un panneau sur le bas-côté de la route à la sortie de Lacoste, puis un chemin serpentant parmi les chênes verts nous conduisit en rase campagne. Rien n'évoquait l'approche d'une carrière de pierre, même modeste, et nous allions rebrousser chemin quand nous faillîmes tomber dedans. Un grand trou creusé dans le sol et jonché de blocs de pierre. Les uns bruts, les autres taillés en pierre tombale, en plaques commémoratives, en urnes de jardin géantes, en anges ailés au regard aveugle mais intimidant, en petits arcs de triomphe ou en colonnes rondelettes et trapues. Dans un coin, une cabane aux vitres rendues opaques par des années de poussière de pierre. Nous frappâmes, nous entrâmes. Yves était là, dépenaillé, avec une barbe noire en broussaille et de formidables sourcils. Un pirate ! Il nous souhaita la bienvenue, chassant sur deux chaises la couche supérieure de poussière à grands coups d'un chapeau mou défoncé qu'il reposa ensuite soigneusement par-dessus le téléphone sur la table. « Anglais, hein ?» Nous acquiesçâmes et il se pencha vers nous, prêt aux confidences. J'ai une voiture anglaise, une Aston Martin de collection magnifique. » Il déposa un baiser sur le bout de ses doigts, saupoudrant sa barbe de blanc et fouilla parmi les papiers répandus sur sa table, soulevant à chaque pile des nuages de poussière. « Il y a là, quelque part, une photographie. » Une sonnerie râpeuse jaillit au téléphone. Yves le repêcha de sous son chapeau et écouta d'un air de plus en plus grave avant de raccrocher. « Encore une pierre tombale, dit-il. C'est ce temps. Les vieux ne supportent pas le froid. » Il chercha du regard son chapeau, l'ôta de sur sa tête et le reposa sur le téléphone, comme pour dissimuler la mauvaise nouvelle. Il revint au fait. « Anglais, alors ? Bon, il paraît que vous voulez une table. » J'avais fait un croquis détaillé de notre table, toutes les mesures soigneusement inscrites en mètres et en centimètres. Pour quelqu'un qui a un sens artistique aussi développé qu'un enfant de 5 ans, c'était un chef-d'œuvre. Yves y jeta un regard bref, louchant sur les chiffres et secoua la tête. « Non, pour un plateau en pierre de cette taille, il faut bien qu'il soit deux fois plus épais. Et puis, votre piétement s'effondrerait, et pouf, en 5 minutes, parce que le plateau va peser. » Il griffonna quelques calculs sur mon dessin. « Entre 300 ou 400 kilos. » Il retourna la feuille de papier et se mit à crayonner au verso. « Tenez, et voilà ce qu'il vous faut. » Il poussa le croquis vers nous. Beaucoup plus réussi que le mien, il représentait un gracieux monolithe, simple, carré, bien proportionné. « 1000 francs, livraison comprise !» Nous topâmes là-dessus et je promis de revenir dans le courant de la semaine avec un chèque. Quand j'arrivais, c'était à la fin d'une journée de travail et je constatais que Yves avait changé de couleur. Du haut de son feutre jusque la pointe de ses bottes, il était tout blanc, saupoudré comme si on l'avait roulé dans du sucre de confiserie. Le seul homme que j'ai jamais vu qui vieillissait de 25 ans en une journée de travail. À en croire nos amis, dont les renseignements ne paraissaient pas totalement fiables, sa femme le passait à l'aspirateur chaque soir quand il rentrait et tout l'ameublement de sa maison, des fauteuils au bidet, était en pierre. Sur le moment, on n'avait pas de mal à le croire. En Provence, au cœur de l'hiver, il règne une atmosphère étrangement irréelle. L'alliance du silence et des paysages déserts donnant le sentiment qu'on est séparé du reste du monde, coupé de la vie normale. On pourrait s'attendre à rencontrer des lutins dans la forêt, à apercevoir des chèvres à 2 têtes au clair de lune. Et pour nous, c'était un contraste étrangement plaisant avec la Provence des vacances d'été dont nous gardions le souvenir. Pour d'autres, l'hiver, c'est l'ennui. La déprime, ou pire encore, le taux de suicide dans le Vaucluse, nous dit-on, était le plus élevé de France. Et cela devint plus qu'une simple statistique quand nous apprîmes qu'un homme qui habitait à 3 kilomètres de chez nous s'était pendu un soir. Un décès dans le pays fait s'épanouir de tristes petits faire-part qu'on affiche dans les vitrines des magasins et sur les maisons. La cloche de l'église sonne le glas et un cortège de gens en habit du dimanche monte lentement jusqu'au cimetière qui est souvent un des sites les plus impressionnants du village. Un vieil homme m'en expliqua la raison. « Ce sont les morts qui ont la plus belle vue, dit-il, parce qu'ils sont là pour si longtemps. » Il ricana si fort de sa propre plaisanterie qu'il fut pris d'une quinte de toux, et je craignais que ce ne fût son tour d'aller les rejoindre. Quand je lui parlais du cimetière de Californie où on paie plus cher pour une tombe avec vue que pour un emplacement plus modeste, il n'en fut pas le moins du monde surpris. Il y a toujours des imbéciles, dit-il, morts ou vivants. Les jours passaient sans aucun signe de dégel. Mais les routes devenaient maintenant des bandes noires, là où les fermiers et leurs tracteurs avaient déblayé le plus gros de la neige, traçant un passage à voie unique entre les congères de chaque côté. À ma stupeur, l'automobiliste français se révélait d'une patience angélique et d'un acharnement têtu pour franchir l'obstacle bien éloigné de son attitude habituelle de pilote de Grand Prix au volant de son bolide. J'observais cela sur les routes autour du village. Une voiture avançant prudemment le long de l'unique voie centrale déblayée en rencontrait une autre venant de la direction opposée. Les deux s'arrêtaient nez à nez. Aucun des deux conducteurs ne voulait céder la place en faisant marche arrière. Pas davantage se ranger sur le bas-côté pour risquer d'être coincé dans une congère. Les deux chauffeurs, le regard en vrille, attendaient dans l'espoir de voir arriver une autre voiture, ce qui constituerait un cas flagrant de force majeure, obligeant la voiture solitaire à reculer pour laisser le passage à ceux qui avaient l'avantage du nombre. Ce fut ainsi que, le pied léger sur l'accélérateur, je partis pour aller voir M. Colombani et sa caverne d'Ali Baba, remplie d'appareils de chauffage. Il m'accueillit à l'entrée de son magasin, bonnet de laine tiré par-dessus ses oreilles, écharpe enroulée jusqu'au menton, ganté, botté, et l'image même d'un homme qui considérait que se protéger du froid était une expérience scientifique d'isolation thermique. Nous échangeâmes quelques politesses à propos de mes tuyaux et de sa clarinette, et il me fit entrer pour m'exhiber un assortiment scrupuleusement disposé de tubes, de robinets et de mystérieux appareils blottis dans tous les coins. Colombani était un catalogue parlant. Il débitait des coefficients de chauffage et des totaux de thermie qui me dépassaient à tel point qu'à chaque nouvelle révélation, je ne pouvais que hocher la tête sans rien dire. La litanie finit par s'arrêter. « Voilà !» dit Colombani en me regardant d'un air expectatif, comme si maintenant je connaissais sur le bout des doigts l'univers mystérieux du chauffage central et que j'étais en mesure de faire un choix intelligent et fondé sur une solide information. En vrai professionnel, je lui demandais comment il chauffait sa propre maison. « Ah !» dit-il en se tapant le front avec une feinte admiration. « Ce n'est pas bête de demander ça. Quelle viande est-ce que mange le boucher ?» Et, laissant cette question mystérieuse sans réponse, nous nous rendîmes chez lui. Il y régnait une chaleur indéniable, presque étouffante, et M. Colombani exécuta un numéro très au point. Autant deux ou trois couches de vêtements, s'épongeant le front d'un geste spectaculaire et rajustant son bonnet pour exposer ses oreilles à l'air. Il s'approcha d'un radiateur et en tapota le dessus. « Sentez-moi ça, dit-il, de la fonte, pas comme la merde qu'on utilise aujourd'hui pour des radiateurs. Et la chaudière, il faut que vous voyez la chaudière. Mais attention, dit-il en s'interrompant brusquement. Il braqua sur moi son doigt de conférencier. Elle n'est pas française. Il n'y a que les Allemands et les Belges qui savent fabriquer des chaudières. Nous passâmes dans la chaufferie et j'admirai consciencieusement un vieil engin incrusté de cadran qui s'époumonnait et reniflait contre le mur. Ça nous donne 21 degrés dans toute la maison, et même quand la température extérieure est de moins 6. Là-dessus, il ouvrit toute grande la porte extérieure pour laisser entrer de l'air à moins 6. il avait le don, chaque fois que c'était possible, d'illustrer ses remarques d'une démonstration pratique, comme s'il s'adressait à un enfant particulièrement obtus. Assurément, dans mon cas, pour ce qui était de la plomberie et du chauffage, il avait tout à fait raison. M'ayant présenté la chaudière, il me ramena dans la maison pour rencontrer Madame, une petite femme à la voix sonore. Est-ce que je voulais une tisane, un biscuit aux amandes, un verre de marsala? Ce que je voulais vraiment voir, c'était Monsieur Colombani, avec son bonnet, jouer de la clarinette. Mais il faudrait attendre un autre jour. Pour l'instant, j'avais de quoi réfléchir. En revenant à la voiture, je levai les yeux vers le panneau solaire pivotant installé sur le toit et je constatai qu'il était complètement gelé. L'envie me prit soudain d'avoir une maison pleine de radiateurs en fonte. En arrivant chez moi, je découvris qu'on avait déposé derrière le garage une maquette de Stonehenge. La table était arrivée. 1,50 m de côté, 12,5 cm d'épaisseur, un piétement massif en forme de croix. La distance qui séparait l'endroit où on l'avait livré de celui où nous voulions l'installer ne faisait pas 15 m, mais serait aussi bien pu être 15 km. L'étroite entrée de la cour ne permettait le passage d'aucun moyen de transport mécanique. Le haut mur et l'auvent de tuiles interdisaient l'emploi d'un treuil. Yves nous avait dit que la table pèserait entre 300 et 400 kilos. Elle paraissait plus lourde. Il téléphona ce soir-là. « Êtes-vous contente de la table ?»« Oui, la table est magnifique, mais il y a un petit problème. »« L'avez-vous déjà installée ?»« Non, c'était justement là le problème. » Avait-il un conseil à nous donner ? « Quelques paires de bras, dit-il. Pensez aux pyramides. Comment faisaient-ils les Égyptiens, fans de pitchoun ?»« Bien sûr. Ce qu'il nous fallait, c'était 15 000 esclaves égyptiens qui nous feraient cela en un rien de temps. »« Bah, si vous ne trouvez rien, je connais l'équipe de rugby de Carcassonne. » Là-dessus, il éclata de rire et raccrocha. Nous allâmes jeter un nouveau coup d'œil au monstre en essayant de calculer combien il faudrait de personnes pour la déplacer jusque dans la cour. 6, 8, on devrait la faire basculer sur le côté pour franchir le seuil. Nous imaginions des orteils broyés, des hernies multiples. Nous comprîmes un peu tard pourquoi le précédent propriétaire de la maison avait installé une légère table pliante à l'endroit que nous avions choisi pour ériger notre monument. Nous adoptâmes la seule ligne de conduite raisonnable. Nous allâmes chercher l'inspiration devant le feu avec un verre de vin. Il était peu probable qu'on nous volât la table à la faveur de la nuit, En fait, il ne nous fallut pas longtemps pour trouver une éventuelle source de main-d'œuvre. Quelques semaines auparavant, nous avions décidé de rebâtir la cuisine et nous avions passé bien des heures enrichissantes au plan intellectuel, s'entend, avec notre architecte qui nous initiait à la terminologie de la construction française. Coffre, rehausse, faux plafond, vide ordure, dallage, poutrelle et coin perdu. Notre excitation première s'était vite atténuée, tandis que les plans s'écornaient de plus en plus et que, pour une raison ou une autre, la cuisine resta en l'état. Les retards avaient des causes multiples. Mauvais temps, le plâtrier parti faire du ski, le chef maçon qui s'était cassé le bras en jouant au football à motocyclette, la torpeur hivernale des fournisseurs locaux. Notre architecte, un Parisien expatrié, nous avait prévenu que construire en Provence rappelait beaucoup la guerre de tranchées, avec de longues périodes d'ennui interrompues par des accès d'une activité violente et tapageuse. Nous avions connu assez longtemps la première phase pour être impatients d'aborder la seconde. Les troupes d'assaut finirent par arriver dans un fracas assourdissant, tandis que le matin hésitait encore entre l'aube et le jour. Nous sortîmes les yeux bouffis de sommeil pour voir ce qui s'était écroulé et nous parvîmes tout juste à distinguer la silhouette d'un camion hérissé d'éléments d'échafaudage. Un joyeux rugissement nous parvint de la place du chauffeur. « Monsieur Mail ?» Je lui dis que c'était bien ici. « Bon, on va attaquer la cuisine. Allez !» La portière s'ouvrit et un épagneul sauta à terre, suivi de trois hommes. Enveloppé d'une bouffée inattendue de lotion après rasage, le chef maçon me broya la main et se présenta ainsi que son équipe. Didier, son lieutenant Éric, un jeune homme massif répondant au prénom de Claude, le chien, Pénélope, déclara le chantier ouvert en se soulageant abondamment sur le devant de la maison et les activités commencèrent. Nous n'avions jamais vu des ouvriers travailler comme ça. Tout se passa en deux temps et trois mouvements. Le soleil n'était pas encore complètement levé que l'échafaudage était dressé et qu'on avait installé une rampe de planches. Quelques minutes plus tard, la fenêtre de la cuisine et l'évier disparurent. À 10 heures, nous étions plantés devant une magnifique couche de premiers décombres devant lesquels Didier exposait ses plans de destruction. Il était vif et énergique, avec les cheveux coupés en brosse et le dos droit d'un militaire. Je l'imaginais en instructeur à la Légion étrangère, en faisant baver à de jeunes vauriens jusqu'au moment où il criait grâce. Il avait une élocution percutante, bourrée d'onomatopées comme « tac, tchac, paf, crac et boum » que les Français se plaisent à utiliser pour décrire toute forme de collision ou de démolition. Et c'était bien de cela qu'il s'agissait. Le plafond s'écroulait, le plancher montait, tous les accessoires sanitaires existants s'en allaient. C'était un véritable dépeçage. La cuisine tout entière évacuée, et vlan, par le trou, et jadis, il était une fenêtre. On cloua un rideau de polyéthylène pour isoler le secteur du reste de la maison. On transféra les opérations de restauration domestique vers le barbecue dans la cour. C'était stupéfiant de voir et d'entendre l'allègre férocité avec laquelle les trois maçons pulvérisaient tout ce qui était à la portée de leur masure. Ils cognaient, sifflaient, chantaient et juraient au milieu de la maçonnerie qui s'écroulait et des poutres qui s'affaissaient, ne s'arrêtant, presque à regret, me sembla-t-il, qu'à midi pour déjeuner. Ils mirent la même vigueur à faire disparaître leur repas que s'il s'agissait d'une cloison. Il ne s'agissait pourtant pas de modestes paquets de sandwichs, mais de grands sacs en plastique bourrés de poulets, de saucisses, de choucroute, de salades et de miches de pain avec la vaisselle et les couverts appropriés. À notre grand soulagement, aucun d'eux ne buvait d'alcool. un maçon éméché, maniant une massue de 20 kilos, était une perspective terrifiante. Ils étaient déjà assez dangereux, à jeûne. Le pandémonium reprit après le déjeuner et se poursuivit sans interruption jusqu'à près de 19 heures. Je demandai à Didier s'il faisait régulièrement des journées de 10 ou 11 heures. « Seulement en hiver, » répondit-il. « En été, c'était 12 ou 13 heures et 6 jours par semaine. » Cela l'amusa de découvrir l'horaire britannique. Commencer tard et s'arrêter tôt avec de multiples pauses pour le thé. Une petite journée. Voilà comment il décrivit la chose et il me demanda si je connaissais des maçons anglais qui aimeraient travailler avec lui, juste pour l'expérience. J'avais du mal à imaginer une ruée de volontaires. Quand les maçons eurent terminé leur journée, nous nous équipâmes en vue d'un pique-nique polaire et entreprîmes de préparer notre premier dîner dans une cuisine provisoire. Il y avait un barbecue et un réfrigérateur. Derrière le bar, un évier et deux brûleurs à gaz. Nous disposions donc là de tous les équipements de base, à l'exception des murs. Avec une température encore au-dessous de zéro, ça aurait pourtant été un certain réconfort. Mais le feu de sarment de vigne brûlait gaiement, l'odeur des côtes d'agneau au romarin flottait dans l'air, le vin rouge se substituait vaillamment au chauffage central. Nous nous sentions hardis et aventureux. Cette illusion persista pendant tout le dîner, jusqu'au moment où il fallut sortir pour faire la vaisselle. Les premiers vrais signes avant-coureurs du printemps ne vinrent pas d'une floraison précoce, ni du comportement capricieux des rats sur le toit de rivière, mais d'Angleterre. Maintenant qu'ils avaient passé la triste période de janvier, les Londoniens faisaient des projets de vacances. Et c'était stupéfiant de voir le nombre de ces plans qui incluait la Provence. De plus en plus souvent, le téléphone se mettait à sonner quand nous nous installions pour dîner. Notre interlocuteur, méprisant cavalièrement le décalage d'une heure entre la France et l'Angleterre, et la voix désinvolte et à demi oubliée d'une lointaine relation, nous demandait si nous commencions à nous baigner. La réponse était toujours empreinte d'une prudente réserve. Ils semblaient peu charitables de leur ôter leurs illusions en expliquant que nous étions installés dans une zone de permafrost avec le mistral qui hurlait par le trou du mur de la cuisine en menaçant de déchiqueter le rideau de polyéthylène qui constituait notre seule protection contre les éléments déchaînés. La conversation suivait un cours qui devint rapidement prévisible. On nous demandait d'abord si nous serions là, à Pâques ou en mai, ou à toute autre période choisie par notre interlocuteur. Ce point établi, la phrase que nous tardâmes pas à redouter, « Nous pensions descendre dans le midi vers cette époque », arrivait jusqu'à nous et restait là dans le vide, inachevée et vibrante d'espérance, en attendant un accueil un peu chaleureux. Il était difficile de se sentir flatté devant ce soudain empressement à nous voir. Cet enthousiasme restait endormi au cours des années que nous avions passées en Angleterre. Il était tout aussi difficile de savoir comment y répondre. Personne n'a la peau aussi épaisse que celui qui recherche le soleil et l'hébergement gratuit. Les esquives mondaines habituelles ne donnent rien. La maison est pleine cette semaine-là. Ne vous inquiétez pas, nous viendrons la semaine suivante. Vous avez des ouvriers partout? Oh, ça ne nous dérange pas. De toute façon, nous serons au bord de la piscine. Vous l'avez peuplé de barracudas et vous avez installé un piège anti-char dans l'allée. Vous êtes devenu végétarien et vous ne buvez plus d'alcool. Vous craignez que les chiens ne soient atteints de la rage. Peu importe ce que nous disions. On refusait de prendre nos propos au sérieux. On était décidé à triompher de tous les faibles obstacles que nous pourrions inventer. Nous parlâmes de ces invasions imminentes à d'autres personnes venues s'installer en Provence et tout s'était passé par là. Le premier été, disait-il, c'est invariablement l'enfer. Après, on apprend à dire non. Sans cela, de Pâques jusqu'à la fin septembre, on se trouve à la tête d'un petit hôtel extrêmement peu rentable. Conseil avisé mais déprimant. Nous attendions nerveusement le coup de téléphone suivant. La vie avait changé. Les maçons y étaient pour beaucoup. En nous levant à 6h30, nous pouvions prendre notre petit déjeuner en paix. Quelques minutes de retard et les effets sonores en provenance de la cuisine rendaient toute conversation impossible. Un matin, où perceuse et marteau jouaient un opéra wagnérien, je pouvais voir bouger les lèvres de ma femme, mais pas un mot n'arrivait jusqu'à moi. Elle finit par me passer un billet. « Bois ton café avant qu'il soit plein de poussière. » Mais on progressait. Ayant réduit la cuisine à l'état de coquille, les maçons commencèrent tout aussi bruyamment à reconstruire, en faisant passer tous leurs matériaux sur la rampe en planche, par une ouverture de la taille d'une fenêtre, à 3 mètres au-dessus du sol. Leur énergie était extraordinaire. Didier, moitié homme, moitié chariot élévateur, parvenait, on ne sait comment, à monter en courant la rampe qui tremblait sous ses pas, tout en poussant une charrette de ciment mouillé, une cigarette à un coin de la bouche et assez de souffle pour siffloter de l'autre côté. Je ne saurais jamais comment ces trois-là pouvaient travailler dans un espace confiné, dans le froid et des conditions difficiles, tout en conservant une inébranlable bonne humeur. Peu à peu, la structure de la cuisine prit forme et l'équipe suivante vint inspecter les lieux pour coordonner les diverses contributions de chacun de ses membres. Michel, le plâtrier, avec sa radio couverte de plâtre et ses baskets, Mastorino, le peintre, Truffilli, le carreleur, Zanchi, le menuisier, et M. Colombani, en personne, avec le petit 2 pas derrière lui au bout d'une laisse invisible. Ils étaient souvent 6 ou 7 à parler tous à la fois au milieu des décombres, discutant dates et disponibilités, tandis que Christian, l'architecte, tenait le rôle de l'arbitre. L'idée nous vint que, si l'on pouvait pour 1 heure ou 2 canaliser toute cette énergie, nous disposions d'assez de corps et de biceps pour déplacer la table de pierre jusque dans la cour. Quand je fis cette suggestion, ils furent sur le champ, prêts à coopérer. « Pourquoi ne pas le faire maintenant » dirent-ils. « Pourquoi pas, en effet ?» Nous sortîmes par la fenêtre de la cuisine et nous nous rassemblâmes autour de la table couverte d'une couche blanche et granuleuse de givre. 12 mains empoignèrent la dalle et 12 bras s'efforcèrent de la soulever. Pas le moindre mouvement. Il y eut quelques « tsss » et des « eh putain, quelle masse !» et des « mazettes !» Chacun fit le tour de la table en l'inspectant jusqu'au moment où Colombani mit le doigt sur le problème. « La pierre, expliqua-t-il, est poreuse. Elle est gonflée d'eau comme une éponge. L'eau a gelé, la pierre a gelé, la terre a gelé, et voilà, impossible de la bouger. Il faut attendre le dégel. » On parla à tort et à travers de lampes à souder, de leviers, mais Colombani mit un terme à ses billevesées, qu'il qualifia de patati et patata, ce qui me parut signifier que c'était absurde. Et le groupe se dispersa. L'hiver est encore là, mais il faut déjà envisager de se préparer pour l'été. C'est pourquoi l'achat d'un chauffage central ainsi que l'installation d'une grosse table de pierre dans la cour pour les repas d'été s'organise en même temps que la restructuration de la cuisine. Pour Peter Mayle et son épouse, l'arrivée du printemps, ce n'est pas l'épanouissement des premières fleurs, mais plutôt, et de façon récurrente, les appels téléphoniques de leurs amis anglais qui commençaient à faire leurs projets de vacances d'été en Provence. Et bien sûr, s'attendaient à être invités dans le Luberon. Les gros travaux de la cuisine empêchaient notre couple anglais de faire leur repas du dimanche dans de bonnes conditions. Et ils envisageaient d'aller déjeuner dehors. Et les voilà à la recherche d'un restaurant. Nous lisons en ce moment le livre « Une année en Provence », un roman écrit par Peter Mayle et traduit de l'anglais par Jean Odenthal. À bientôt, chers auditeurs, pour la suite de notre lecture. Et n'oubliez pas, je lis pour vous sur Radio Alliance Plus.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus.